Couture dans le Mide.
Avec Pierre Couture et Frank Fournier, le Dédomiseur.
Radio X.
Ouais, ben ce qui devait arriver arriva là, avec l'histoire de Gary là, puis ses fameux textes d'Urbania en 2010. Ben là, c'est Urbania qui vient de sortir sur X et sur les réseaux sociaux pour dire, écoutez, là, c'était du journaliste. Ça date de 2010, c'était à l'époque. Puis ils renient rien. Là. Ils disent qu'il s'agissait de journalisme anthropologique à la Urbania, observation de l'humour, certaines irrévérences et une assez belle plume. Donc, eux renient rien. Là. Je veux dire, c'était
ben,
une
c'est
commande.
C'est sur leur site encore.
Oui, c'est une commande d'Urbania. Et il faut le voir comme étant, à l'époque, un espèce de texte journal intime, puis slash, là. Mais le titre et le texte, c'est deux choses, là.
Mais moi, écoute, je comprends pas qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet-là, honnêtement, dans l'actualité, là, pas nous autres, je comprends, nous autres, on réagit,
ben, c'est
ça arrive ouais. là. Mais je veux dire, je trouve ça complètement insignifiant d'aller reprocher à quelqu'un des affaires qu'il a écrit il y a 10 ans, dans un 15 ans, 20 ans, dans un journal. On passe complètement à côté des sujets qui préoccupent le monde.
Ben là, c'est sûr que c'est QS et la CAQ là, qui ont attaqué là, Gary, là. C'est là-dessus. Il faut voir ça comme une tant de game politique, là. Et là, ben là, t'as les députés de du PQ qui défendent Gary en disant, écoutez, là, ça fait longtemps, puis c'était du journalisme anthropologique à la Urbania, là. Donc, c'était un peu ça, l'idée du texte qui avait été commandé à Gary. Mais tu sais, on n'a pas pris le contexte, on n'a pas expliqué, on a essayé de coincer Gary et le PQ là-dessus.
C'est toujours ça. Hein?
Ben oui, c'est toujours
c'est
ça.
Une petite game.
Voilà, il est là, médecin Karim El Ayoubi, comment allez-vous?
Oui, bonjour, ça va bien vous deux?
Oui, ça va bien. Également candidat du Parti conservateur ici à Québec pour les prochaines élections. Écoutez, on voulait vous avoir. Vous avez été dans le show nombreuses années. Vous avez commenté l'actualité médicale et tout ce qui se passait en santé au Québec. Et là, hier, coup de théâtre, on apprend que depuis que la CAQ est au pouvoir, ben les délais à l'urgence, ça s'allonge.
Oui, c'est ça. C'était supposé débranler les colonnes du temple, là, mais bon, il n'y a pas grand-chose qui était branlé dans ce qu'on voit.
Non.
Mais c'est assez prévisible en réalité parce que lorsqu'on regarde, si on veut éliminer des temps d'attente à l'urgence, on veut minimiser le plus possible le temps d'attente à l'urgence, il y a deux façons de s'y prendre. Comment une urgence devient dans un goulot d'étranglement? Il y a l'entrée et il y a la sortie. Bon. L'entrée à l'urgence, on sait c'est quoi, c'est les gens qui arrivent. Les gens très malades qui arrivent en ambulance, qui arrivent des infarctus, les patients intubés. Si on comprend tous que ça prend des urgences pour faire ça. Les cas qui sont les plus mineurs, on aurait beaucoup avantage à avoir de multiples fournisseurs de soins un petit peu partout pour faire en sorte que les otites, les pharyngites, les entorses lombaires, les douleurs aux genoux non compliquées sans fracture ne se rendent pas à l'urgence. Donc, ça, c'est l'entrée comme telle, donc des effectifs avec des fournisseurs de soins multiples pour éviter qu'il y ait trop d'entrées à l'urgence.
Ouais.
L'autre truc, c'est la sortie. Parce que faut bien comprendre que lorsqu'un patient est à l'urgence et qu'il est hospitalisé, on lui demande un lit à l'étage. Si le patient reste si les lits à l'étage sont pleins et on ne peut pas le monter à l'étage, il demeure sous observation des infirmières de l'urgence. Donc, vous utilisez une capacité nursing de l'urgence qui ne devrait pas être utilisée pour ces patients-là parce qu'ils sont hospitalisés. Pourquoi ça jamme en haut? Ben, c'est beaucoup parce qu'il y a des patients, lorsque moi j'ai fait ma dernière semaine d'hospitalisation, il y a une couple de semaines, j'avais à peu près sur une vingtaine de patients, j'en avais facilement 6-7 qui n'avaient même plus leur place à l'hôpital, c'était plus des attentes de relocalisation, répit, CHSLD, des choses comme ça. C'est quoi la bonne idée que la CAQ on fait? Au lieu de faire plus de ports pour désengorger justement les hôpitaux et ultimement les urgences, ils ont décidé de faire la maison des aînés à 1,8 million de la porte. C'est sûr qu'à 1,8 million de la porte, on ne peut pas en faire tant que ça. Donc, c'est là qu'on voit vraiment des mauvaises décisions et en aval et ouais. en amont qui font en sorte que c'était inéluctable, l'urgence va demeurer prise dans un goulot d'étranglement.
Mais comment on fait pour désengorger l'urgence? Là? On parlait de peut-être 8-1-1. 8-1-1, là, ça prend une heure et demie, des fois deux heures, puis on n'a pas de réponse.
Il faut utiliser la capacité maximale du réseau comme tel. Puis c'est pour ça que lorsqu'on regarde un petit peu, nous, au Parti conservateur, ce qu'on propose,
ouais.
c'est que, entre autres, bon, plusieurs choses, là, on propose, entre autres, d'utiliser la carte d'assurance maladie dans les cliniques privées. Okay? Ça, on l'utilise pour si les délais sont déraisonnables ou si le coût est égal ou inférieur. À partir de ce moment-là, ben, vous augmentez de façon importante les multiples fournisseurs de soins un petit peu partout, puis ça peut contribuer à désengorger l'urgence, surtout qu'il y a quand même pas mal de modèles internationaux qui nous montrent que dans certains secteurs, pour certaines interventions, le privé est capable d'en faire plus par unité de temps. Donc c'est une des choses. Maintenant, on propose également d'augmenter les effectifs infirmiers et médicaux, de relever de façon quand même assez importante le contingent en médecine. Pas pour faire de la médecine à rabais, il faut que les gens passent tous leurs examens, on s'entend, mais de faire en sorte que notre ratio de médecins s'augmente de façon significative. Aussi, notre ratio de super infirmières qui nous font gagner quand même beaucoup en productivité.
Ouais.
Après ça, utiliser des cloisonnements des professions. En ce moment, il y a plusieurs revendications avec les paramédics. Les paramédics, si on compare par rapport au reste du Canada, ou si c'est aux États-Unis, on devrait leur donner beaucoup plus de possibilités d'intervention auprès du patient à domicile, parce que des fois, ils amènent les patients à l'urgence, puis il y a une intervention qui aurait pu être faite par eux en fonction de leur compétence et de leur formation. On n'utilise pas à plein escient la formation de l'ensemble de nos professionnels, dont les paramédics. Et aussi, au lieu de faire des maisons des aînés 1,8 million de la part, aller beaucoup plus vers les soins à domicile. Le modèle, ouais, par exemple, un excellent modèle par rapport à ça, c'est le modèle du Danemark. On sait très bien qu'un lit de soins à domicile coûte significativement moins cher qu'un lit en institution. Et si on intervient précocement, ben on garde les patients plus à domicile, on est capable de fournir plus de soins avec la même enveloppe budgétaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est c'est une autre solution aussi, au lieu de s'en aller vers de la grosse institutionnalisation avec des maisons des aînés, 1,8 million de la part, l'État n'a pas les moyens de payer ça du tout. Et au cours de la campagne, on va vous amener quand même plusieurs solutions. Là, c'était juste une mise en bouche. Là, c'était comme, moi, j'appelle ça un résumé de plateforme. Mais la belle grande plateforme, on va vous la présenter en septembre.
Mais là, comment on fait, Karim, pour implanter les changements que vous voulez faire ou même d'autres partis? PQ propose d'abolir Santé Québec. Bon, il y a toutes sortes de gens qui arrivent avec des propositions. Mais comment on fait pour implanter ça sans provoquer un peu ce qui a été provoqué par Dubé? Là? C'est-à-dire, là, tout le monde est fâché, les médecins se filment en train de pleurer sur Internet. La même chose pour les infirmières. T'sais, c'est un gros, on appelle ça le mammouth, c'est pas pour rien. C'est qu'on dirait que s'il est comme irréformable, le système, tout le monde va se braquer. C'est un peu une question impossible là, que je te pose, là, mais ouais, c'est comment on fait pour attaquer des changements sans que tout le monde se braque puis qu'on sait à l'avance qu'il n'y a rien qui va aboutir? Hein?
Ben, moi, je pense qu'à partir du moment où il y a plusieurs choses ici, Frank. C'est-à-dire, la différence avec Christian Dubé, c'est qu'il est arrivé avec une approche extrêmement autoritaire. C'est-à-dire, il y avait, tu sais, c'est « Regarde, tu fais ça » ou « Puis là, je te mets un délateur dans ton bureau, puis il va y avoir un délateur, un poli de bureau qui va descendre de temps en temps du ministère pour venir s'assurer que les délateurs délatent bien tout le monde. » Je veux dire, mais c'est une catastrophe totale. Personne ne veut vivre dans un système comme ça. Donc, c'est la façon dont il est arrivé. C'était pas juste du mauvais, ce qu'il proposait Christian Dubé, une proportion plus importante à la capitation, c'est-à-dire pour encourager la prise en charge. Moi, je suis d'accord avec ça. Je l'ai mis dans mon programme, là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est la façon dont il s'est pris, beaucoup plus autoritaire. Beaucoup trop autoritaire et beaucoup trop micromanagement. C'est que tout le monde se sent micromanagé dans le système. Là, nous, ce qu'on amène comme changement, c'est ça qui va avoir des levées de boucliers. Mais premièrement, on a beaucoup de littérature internationale pour nous backer. Puis là, on va dire, bien écoutez, ça fonctionne comme ça là-bas, dans plusieurs pays. Les modèles sont démontrés, sont éprouvés. Puis là, vous ne voulez pas y aller. Bien là, est-ce que vous pensez au patient? Vous ne mettez pas le patient au centre. Donc ça, il y a cet argument-là. Et nous, on y va beaucoup avec de la libéralisation. On ne met pas de menottes à personne. On libéralise un réseau. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de liberté pour les patients de choix, plus de liberté pour les médecins, plus de liberté pour les infirmières en termes, c'est-à-dire la qualité de la pratique, ça va être tout aussi sévère en termes de qualité de pratique, mais les gens vont avoir beaucoup plus de choix de fournisseurs de soins et ça va faire en sorte qu'il y ait plus de satisfaction parce qu'une infirmière, ça peut faire son affaire de travailler dans un milieu pendant, je ne sais pas, moi, peut-être dans le secteur public, 30 heures, mais elle peut vouloir aller combler au privé 10-12 heures de plus dans un autre environnement, une autre atmosphère. Et à partir de ce moment-là, bien, la beauté de ça, c'est que tu augmentes la capacité du réseau parce que tout le monde travaille à son plein potentiel. Bonne étude que l'Institut économique de Montréal ont publié. Eux, ils ont regardé les temps d'attente dans les urgences, mais ils ont également retracé une étude assez récente du Danemark qui démontre que la fausse prémisse que s'il y a un système mixte privé-public, tout le monde va s'en aller au privé, juste faire du 9 à 4, être heureux comme ça. En passant, un pays de gauche, là, le Danemark, mais ils ont quand même compris quelque chose. C'est pas l'expérience danoise. L'expérience danoise nous démontre que ceux qui vont des deux côtés ont tendance à travailler 5 heures de plus par semaine en moyenne. Donc, ça dément encore une fois le principe que le privé fait juste cannibaliser, entre guillemets.
Est-ce que vous obligez les médecins à faire du public pour aller au privé? C'est-à-dire que oui, il faut que tu fasses un minimum d'heures ici, puis après ça, tu pourras t'ouvrir une clinique privée pour si tu veux le faire?
Bien, c'est-à-dire que dans notre programme, il n'y a pas d'obligation comme telle, mais on n'est pas contre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu libéralises un réseau, c'est sûr que si tu te rends compte que, je veux dire rapidement, il y a des secteurs où t'as des bris de service ou des choses comme ça, ben c'est le rôle du ministre, c'est le rôle de l'État d'intervenir à ce moment-là. Mais on n'y voit pas vraiment la nécessité. Pourquoi? C'est parce que nous, en réalité, c'est pas du tout au privé ou du tout au public. C'est que s'il y a des réseaux privés qui offrent un service à meilleur coût ou qui offrent un service et qui sont capables d'en faire plus par unité de temps, ben la carte va passer. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient, un modèle où il y a beaucoup de sous-contraction et la ligne entre le privé et le public, c'est uniquement un statut juridique qui dit cet établissement-là est géré par un fonctionnaire du gouvernement et cet établissement-là est géré par une entité privée. Mais la carte passe de toute façon.
Oh, donc,
à partir de ce moment-là, ça devient comme c'est du privé.
Oui, mais on souhaite que le patient soit priorisé là-dedans. Là. C'est le patient. Là.
Oui. Tout à fait. C'est pour ça, exactement. Si c'est à moindre coût, la carte doit passer absolument. Et si les délais sont déraisonnables à partir de ce moment-là, même s'il y a des coûts qui sont un petit peu plus élevés, ben il faut que l'assureur, remplisse son contrat. C'est le même principe pour une automobile. On s'entend, un corps humain est plus important qu'une automobile, mais la comparaison peut quand même se faire ici. Puis il y a une autre chose, parce qu'il y a quand même des limites l'État quand même des limites dans sa capacité de payer. Tous ces beaux modèles-là qu'on parle, beaucoup Europe de l'Ouest, Asie développée, la plupart ont la possibilité de se contracter un assureur duplicatif. C'est-à-dire, toi, mettons que tu veux te contracter une assurance parce que tu n'es pas satisfait de ta RAMQ, tu as le droit de le faire, puisque ça a démontré, c'est que tu augmentes les capacités du réseau en faisant ça, parce que tu as des investisseurs étrangers qui sont intéressés à venir investir leur capital intelligent, leur capital financier. Donc, tout ça mis ensemble, c'est un réseau qui devient beaucoup plus performant.
Voilà, ça sera à suivre. Puis, de toute façon, la campagne n'est pas partie encore. Là. Vous aurez le temps de développer vos idées. Là, il y a quelqu'un qui nous dit 1,8 million, la porte, ça n'existe pas. Il y a un entrepreneur qui dit que c'était 900 000. Moi, j'ai un texte de la presse ici là, du 21 août. Ah non, c'est aujourd'hui ça. Mais du 8 mai 2025, puis on parle bel et bien d'1,8 million, la porte, à Joliette, dans la Nodière.
Le 900 000, ça, qu'est-ce que c'était? C'était en 2022, lorsqu'on était en campagne électorale, et la CAQ avait lancé les chiffres de 900 000. Ça a augmenté depuis ce temps-là. Les chiffres qui sont sortis les derniers, c'est 1,8.
Voilà, ça sera suivi. Karim Elayoubi, toujours un plaisir. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Merci. Voilà. Karim Elayoubi, qui est médecin, mais qui est aussi candidat du Parti conservateur ici dans la région de Québec, qui va se présenter. Et on pense que ça va être le 27 août. Ça va aller vite. C'est la semaine prochaine, ça?
C'est la semaine prochaine. Au final, les gens, ils veulent... Ce qu'on voyait, là, c'était les gens, ils veulent être soignés. Ils s'en foutent un peu de savoir qui donne le soin.
Ah, mais c'est ça, ici, hein, c'est que tout le monde défend le petit lunch. T'sais, tout le monde va défendre sa petite couverte, mais le patient, lui, on ne pense pas à lui. Lui, c'est le dernier. Hein? Lui, il paye, puis il ferme sa gueule. Hein?
C'est
un peu ça. Voilà, et après la pause, la bourse et l'économie, on en jase.
Dans le mid, Radio X.